Bonsoir à toutes et à tous. Alors il est 18h, c'est l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4 tous les mercredis de 18h à 19h. Ce soir, c'est BDS Provence, le comité local de la campagne BDS France qui vous propose cette émission. Un petit rappel, vous savez toujours pour commencer, BDS Provence a une page Facebook sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond. Vous pouvez aussi laisser un message en privé si vous avez des questions ou si vous désirez participer à nos actions. La campagne BDS France a aussi un site www.bdsfrance.org avec de nombreuses informations également, nationales et internationales. Et nous avons aussi une boîte mail, bdsprovence@orange.fr. Alors l'été est en train de s'achever, les vacances sont terminées. Comme chaque année, elles se sont terminées par toute une série d'universités d'été des différents partis et mouvements en France. La campagne BDS France a largement participé cette année, notamment à l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, en animant plusieurs ateliers. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler plus tard dans une autre émission. La campagne BDS France a aussi été présente à l'université d'été du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, avec un atelier et une préparation à un forum plénier. Donc vous voyez, un été plutôt studieux pour les membres de la campagne BDS France qui ont pris en charge ces interventions très importantes car elles portent dans ces universités, elles portent la parole du peuple palestinien. Par ailleurs, à la suite de demandes répétées depuis 3 ans auprès de la France insoumise, nous avons obtenu cette année qu'une conférence sur la Palestine se tienne enfin dans les amphis d'été, qui sont donc l'université d'été de la France insoumise. Cette conférence a été intitulée « Israël-Palestine, deux points, après 75 ans de conflit, comment agir pour la paix ?» Cette conférence était animée par Ercilia Soudé, qui est députée de la France insoumise de la Seine-et-Marne, avec Rima Hassan, Thomas Vescovi et Anne Thuaillon. Ercilia va nous les présenter dans un instant. Cette conférence a été enregistrée, j'étais présente, et je dois dire que les intervenants et intervenantes ont été tous les trois passionnants. Le public de plus de 100 personnes s'est montré particulièrement attentif. Malheureusement, il est resté peu de temps à la fin pour des questions. Je suis quand même arrivée à apporter quelques précisions sur la campagne BDS France, mais malheureusement, peu de questions. Nous allons maintenant écouter la première partie de cette conférence. La conférence a duré 1h30, mais nous écouterons la première partie qui dure à peu près, je crois, 40 minutes. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et tous. Donc on va commencer. Installez-vous confortablement. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, malgré le passage en revue médiatique de toute ma garde-robe, je suis Ercilia Soudé, députée LFI de Seine-et-Marne. Et pour cette conférence, nous allons donc nous intéresser à la situation en Israël et en Palestine qui s'enlise depuis 75 ans et qui s'aggrave tout particulièrement ces dernières années. J'ai eu l'occasion d'aborder le sujet à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la Commission des Affaires étrangères où je siège. Et dans le cadre de cette commission, je fais notamment partie d'une mission pays qui a pour vocation de faire le point sur la situation géopolitique dans cette région du monde et qui m'amènera notamment à me rendre sur place, même si cela déplaît à de petits esprits mal intentionnés. 75 ans de conflit, je mets des guillemets, j'utilise ce terme faute de mieux, en fait, au vu de l'inégalité du rapport de force de la situation locale. On peut se demander légitimement comment agir pour parvenir enfin à une paix juste et durable. Il me semble indispensable de commencer par poser un bon diagnostic. Comment un médecin pourrait-il nous proposer les bons soins sans connaître précisément nos symptômes? Eh bien, c'est le même principe. Pour réfléchir à cette question complexe, nous avons avec nous 3 brillants intervenants. Donc Anne Thuaillon est vice-présidente de l'association France-Palestine Solidarité, qui rassemble des personnes attachées aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense des droits humains. Cette association, qui regroupe des milliers d'adhérents, entend agir pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Une paix fondée sur l'application du droit international qui assure l'égalité des droits. Thomas Vescovi est historien de formation et chercheur indépendant. Il a écrit « L'échec d'une utopie, l'histoire des gauches en Israël ». Thomas Vescovi travaille notamment sur la société israélienne, ses relations avec la société palestinienne et son rapport à l'histoire. Et enfin, Rima Hassan, juste à ma gauche, est juriste et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui étudie, enquête et sensibilise sur ces lieux qui regroupent des personnes exilées à travers le monde. Rima Hassan a elle-même grandi dans le camp de réfugiés palestiniens de Nérav en Syrie et est diplômée d'un master en droit international et organisation internationale. Donc, chacun va intervenir successivement et à la fin, vous aurez quelques minutes pour réagir et poser des questions pour celles et ceux qui le désirent. Et je vais commencer par laisser la parole à Rima, qui va nous contextualiser un peu le sujet. D'ailleurs, Rima fait notable cette année, les Nations Unies ont commémoré pour la première fois la Nakba. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit ?
Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de...
On n'entend pas.
Je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Là, ça va ? C'est... Ouais ? Plus fort. Là, je suis à un niveau de... Peut-être que je peux essayer l'autre. Ouais. Là, on m'entend bien. Bon, je reprends. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il faut vraiment... Je ne peux pas parler plus fort, je pense. Donc, je vous remercie pour l'invitation et je suis très heureuse d'être avec vous pour parler de ce sujet. Donc, effectivement, au vu notamment de mon histoire, puisque ma famille a été expulsée de la Palestine en 1948 et on a été accueillis, comme beaucoup de Palestiniens, dans des camps de réfugiés, donc des camps qui sont à la fois installés dans des pays frontaliers des territoires palestiniens en Syrie, au Liban et en Jordanie, mais il y a également des installations pour les réfugiés qui ont été déplacés à l'intérieur des terres, des territoires palestiniens, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc effectivement, il y a eu pour la première fois, pour les 75 ans de la Nakba, je vais y revenir sur le terme de la Nakba, une commémoration qui a enfin consacré le récit tel qu'il est raconté par les Palestiniens depuis 75 ans, à savoir que les Palestiniens ont été victimes d'une vague vague d'expulsion qui ont été assez massives en 1948. Mais j'ai presque envie de dire que c'est une commémoration qui intervient trop tard, puisque les moyens dont on dispose aujourd'hui pour résoudre la question des réfugiés palestiniens sont relativement faibles, et pareil, je vais y revenir dans mon propos. Donc, je vais commencer mon propos par vous citer 5 citations qui sont très importantes, et je les ai pas choisies d'un fanatique pris au hasard qui serait israélien, extrémiste, voilà, habité par une idéologie colonialiste, ou voilà. J'ai vraiment choisi des personnes qui ont été au pouvoir en Israël. Donc, il y avait des responsabilités très importantes en Israël, qu'ils soient ministres, qu'ils aient été ministres au gouvernement, et qui avaient vraiment une possibilité d'agir sur différentes périodes de l'histoire de ce conflit. Je vais commencer par Theodor Herzl, donc fondateur du sionisme. En 1895, il a ces mots. Chasser la population arabe au-delà de la frontière en lui refusant le travail, le processus d'expropriation et de déplacement des Arabes doit être mené discrètement et avec circonspection. 1937, David Ben Gourion. Nous devons expulser tous les Arabes et prendre leur place. 1969, Golda Meir, qui était première ministre israélienne. Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a personne à qui les rendre. Les Palestiniens n'ont jamais existé. 1973, la seule solution est le Grand Israël sans les Arabes. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Nous ne devons pas laisser un seul village, une seule tribu. Joseph Wertz, directeur du Fonds national juif. Et enfin, la dernière citation. 21 mars 2023, à Paris, le ministre Smotrich, il n'y a pas de Palestiniens, car il n'y a pas de peuple palestinien. Ce peuple n'existe pas. L'objet de mon introduction, c'est de situer la Nakba comme une conséquence d'une idéologie, et qui n'est pas un seul fait historique isolé qui est intervenu en 1948, mais comme quelque chose qui n'est un processus qui ne s'est en réalité jamais arrêté. Et c'est à ce titre qu'on parle de Nakba continue. Et il faut véritablement faire ce travail qui consiste à ne plus voir la Nakba. Donc ce fait historique qui s'est déroulé effectivement sur 2 années. Non plus comme quelque chose qui est isolé historiquement et politiquement parlant, mais qui s'inscrit en conséquence d'une idéologie qui, elle, n'a jamais été profondément remise en cause. Et plus grave encore, elle s'est matérialisée par des activités sur lesquelles on va revenir, d'expulsion, de dépossession à l'égard des Palestiniens qui ne s'est véritablement jamais arrêté. Donc le terme Nakba, il vient non pas des Palestiniens, en réalité il vient d'un universitaire syrien qui a écrit un livre qui s'intitulait Le sens de la catastrophe en 1948. Et cet universitaire syrien, donc Konstantin Zoharek, a été le premier à placer cet événement comme une véritable catastrophe, pas comme un fait qui pouvait éventuellement être réparé dans les prochaines années, mais véritablement comme un point de non-retour pour la question palestinienne. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce pourquoi j'ai commencé par ces citations, c'est précisément parce que le tort qui a été infligé aux Palestiniens depuis 1948, donc depuis la Nakba, n'a jamais été ni admis, ni reconnu, ni même réparé par aucun gouvernement israélien successif depuis la création de l'État d'Israël. Jusqu'à 1970, en Israël, le terme Nakba a été même censuré, et il a fallu attendre tout un mouvement d'historiens israéliens qui ont permis de documenter ce qu'on appelle donc la catastrophe. Hein, j'ai peut-être pas précisé, la Nakba en arabe littéraire, donc ça veut dire la catastrophe. Donc les Palestiniens se sont appropriés ce terme pour parler de leur récit de 1948 que je vais vous détailler. Mais donc c'est très important aussi de resituer le fait qu'il n'y a pas eu de volonté dans la politique israélienne. Ce sont les historiens en fait qui ont rétabli cette histoire, parce que pendant très longtemps on entendait que les Palestiniens avaient pas du tout été expulsés, qui sont partis d'eux-mêmes, et que par ailleurs ce sont les pays arabes frontaliers qui les ont poussés à quitter leur terre. Et on a eu, fort heureusement, parce que les Palestiniens ont été très peu entendus sur le sujet, tout un mouvement aussi d'historiens israéliens qui a rétabli une vérité sur ces faits à partir des années 70. Donc pour les Palestiniens, cette catastrophe, elle représente la mise en place d'une diaspora palestinienne qui a été très importante et en très peu de temps, donc comme je vous l'ai dit, sur 2 ans. Et les Palestiniens sont de fait devenus un peuple sans terre. Il y a eu pendant très longtemps cette fable sur la Palestine qui consistait à dire que la Palestine était une terre sans peuple destinée à un peuple sans terre, donc en l'occurrence pour le peuple juif. Il a fallu quand même constater que cette terre n'était premièrement pas du tout, elle était habitée, et que par ailleurs la politique qui a été menée sur cette terre en 1948 et qui continue d'être menée a engendré la création d'un peuple sans terre, à savoir le peuple palestinien. Donc la Nakba, c'est quoi concrètement ? C'est 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés en l'espace de 2 ans, sur la période donc 47-49, au moment de la création de l'État d'Israël. C'est 800 000 Palestiniens sur 1,4 million à l'époque. D'où l'approche ou la qualification d'expulsion massive, c'est que ça représente quand même une grande partie de la population palestinienne à ce moment-là. C'est 532 villages qui ont été littéralement rasés pendant cette période. Donc quand on parle de les Palestiniens, parle d'une logique véritablement d'une entreprise de disparition de l'identité palestinienne, puisque ce sont des Palestiniens, des villages palestiniens dont même le nom a été modifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement expulsé les Palestiniens et voire aussi massacré, on a même changé le nom de ces villages. Ce qui est assez important aussi, c'est que en 1948, au moment où il y a eu ces vagues d'expulsion, a été demandé à Ben Gurion, donc qui a été premier ministre israélien, ce qu'il fallait faire de ces réfugiés. Et il a eu cette phrase terrible: expulsez-les, les vieux mourront, les jeunes oublieront. Aujourd'hui, donc, ce qu'il faut resituer aussi, donc pour comprendre pourquoi on utilise ce terme de Nakba et donc en quoi il représente une catastrophe, En 1947, la population juive possédait 6% des terres sur la Palestine historique. En 1949, deux ans plus tard, 77% des territoires palestiniens, donc de la Palestine historique, sont occupés à ce moment-là par la population juive, et donc les milices sionistes, et puis ensuite, bien sûr, l'État israélien quand il va se consolider. Et il faut savoir que 90% des Palestiniens qui se trouvent sur ces territoires qui sont donc récupérés par Israël vont être expulsés. Donc il n'y a pas du tout une logique de cohabitation à ce moment-là. C'est 90% des Palestiniens qui se trouvent sur ces territoires qui vont être expulsés. Donc au total, 77% de toute la Palestine historique qui revient à Israël en l'espace de 2 ans. Je vais vous citer donc la Nakba, c'est une catastrophe parce que voilà, pour tous les chiffres qui sont très conséquents pour le peuple palestinien. Et je vais vous citer parce que c'est pas tellement ça ne suffit pas du point de vue palestinien de dire ces chiffres-là. Il faut comprendre ce qui s'est passé pendant cette période. Et je vais vous citer un extrait d'un livre qui parle justement de l'exode palestinien où il est question parce que il y a un descriptif qui est fait, si vous voulez, de la Nakba sur énormément de villages dans ce livre. Vous pourrez venir prendre la référence à la fin si vous le voulez. Et je vais vous prendre seulement un exemple qui est celui du village de Dawa Ima qui se trouve à l'ouest de Hébron. Les témoignages des soldats israéliens présents sur les lieux des atrocités et qui avaient participé à l'assaut au sein du 89e bataillon commandé par Moshe Dayan sont unanimes. C'est des témoignages de soldats israéliens. Les troupes de l'armée israélienne envahirent le village et entreprirent de liquider les civils, jetant leurs victimes dans des fosses. Ils tuèrent les enfants à coups de bâton sur la tête. Pas une maison ne fut épargnée. Les survivants furent alors enfermés dans des maisons, sans eau ni nourriture, alors que le village était rasé. Un commandant ordonna à un sapeur de mettre 2 vieilles femmes dans une des maisons. Il fit sauter la maison avec les 2 femmes. Un soldat se vantant d'avoir violé une femme, puis de l'avoir tuée. Une femme, avec son nouveau-né dans les bras, fut prise pour nettoyer la cour où les soldats mangeaient. Elle travailla 1 jour ou 2, puis ils la tuèrent avec son bébé. Plusieurs documents attestent que ces atrocités furent commises dans le village et aux alentours, y compris dans la mosquée et dans une grotte voisine, qu'on avait fait sauter des maisons dans lesquelles des vieillards avaient été enfermés et qu'il y avait eu plusieurs cas de viol suivis d'assassinats. Des témoignages comme ça sur les villages dont je vous ai parlé, en l'occurrence 532, il y en a énormément et qui proviennent d'ailleurs des soldats israéliens eux-mêmes. Donc quand on parle de catastrophe, ce n'est pas seulement en termes de nombre, mais c'est aussi en termes du récit palestinien. Et aujourd'hui, moi je parle à juste titre de survivants de la Nakba, c'est-à-dire que mes grands-parents, comme tous ceux qui ont réussi, qui ont choisi en fait, enfin qui ont été contraints à l'exil, ce sont des personnes qui ont survécu à une logique véritablement qui a consisté à faire disparaître le peuple palestinien à travers tout ce qu'on a infligé à ce peuple. Donc là, je vous ai cité un exemple de ce village, mais il y en a énormément qui sont documentés, encore une fois, non seulement par des soldats israéliens, mais aussi par des historiens israéliens. Donc pour conclure, la Nakba, comme je vous le disais, c'est un épisode historique très important pour les Palestiniens. C'est pour beaucoup le point de départ de ce qui va constituer une longue et interminable lutte autour de l'identité palestinienne. Et pour une raison très simple, c'est que tout a été mis en œuvre depuis cette date pour faire vivre aux Palestiniens une triple dépossession. La première qui est celle de leur identité, puisque je vous ai cité cinq personnalités très marquantes de l'histoire israélienne qui ont nié, qui sont dans une logique de négation même de l'identité palestinienne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2023. Il y a encore des ministres israéliens qui nient l'existence même du peuple palestinien. Donc la première déposition, c'est celle de notre identité. La deuxième, c'est celle de notre terre, puisque jusqu'à aujourd'hui, on est totalement privé de la possibilité d'arriver à une autodétermination et avoir un État. Et enfin, c'est celle, la troisième, c'est celle de nos biens, puisqu'il y a une logique de spoliation des biens des Palestiniens qui a été entreprise dès la Nakba. Et je vais, pour finir, citer cette loi qui a concerné ma famille et qui a concerné mes grands-parents. La loi des absents qui a été adoptée 2 ans après les expulsions des Palestiniens. Et cette loi a permis aux autorités israéliennes d'exproprier l'ensemble des biens, de spolier l'ensemble des biens des Palestiniens qu'on considérait comme étant absents sur cette période, dans la logique, bien sûr, d'entériner toute perspective de droit au retour de ces derniers. Donc, j'en ai terminé sur la Nakba. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure sur la question des réfugiés palestiniens, parce que les conséquences de la Nakba, comme je vous le disais, c'est l'exode massif des Palestiniens qui ne sont toujours pas rentrés chez eux et qui n'ont toujours pas la possibilité de rentrer chez eux et qui pour beaucoup vivent dans les camps. Et j'essaierai d'apporter un éclairage sur la situation des camps palestiniens, et je pourrai apporter un témoignage aussi du camp dans lequel moi je suis née en Syrie. Je vous remercie.
Je voudrais passer la parole à Thomas pour nous parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler aussi cette année, c'est du mouvement social israélien face à la politique fasciste du gouvernement Netanyahou. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement social et nous dire les conséquences qu'il pourrait avoir sur la situation géopolitique locale?
Merci. Ça fonctionne ou pas? Oui. Ok. Merci d'abord pour l'invitation. Malgré la chaleur, vous êtes là, courageux, les yeux sont toujours ouverts, c'est impressionnant, je ne sais pas comment vous faites. On va essayer de vous garder éveillé. Donc merci Ersila évidemment pour l'invitation. Israël effectivement connaît une crise politique majeure. Ça fait maintenant 40 semaines que des mobilisations continuent de contester le gouvernement. Pour comprendre ça, il faut revenir simplement à l'origine, je vais aller très vite. Lorsque Israël se crée en 1948, le pays fonctionne avec un système assez simple. Il y a un parlement, des élections à la proportionnelle, la majorité au parlement peut faire un gouvernement, d'accord ? Et il y a une autre cour de justice qu'on appelle la cour suprême, qui fonctionne un peu comme un équivalent de cour de cassation en France. Voilà. Et ça fonctionne à peu près bien. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a une espèce de consensus en Israël sur différents points. D'abord un consensus sioniste, c'est-à-dire que qu'on soit de droite ou de gauche, finalement, on est d'accord pour défendre le fait que l'État doit appartenir avant tout à la population juive et doit rester un État à majorité juive. Un consensus également colonial, à savoir que les Palestiniens qui ont été expulsés, ce qu'expliquait Rima juste avant, ne doivent plus être présents et leurs traces doivent être effacées. Un consensus également nationaliste, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ne sont pas juives dans l'État, et il y a à peu près 150 000 Palestiniens qui en 48 demeurent sur leur terre pour différentes raisons, eux eh bien, peuvent rester là, mais ils n'auront pas les mêmes droits que nous. Et enfin, un consensus militariste, c'est-à-dire que l'armée doit être au cœur de l'État. Ce consensus va être à peu près solide jusqu'aux années 70-80. 70-80, vous avez en Israël le développement de nouveaux mouvements politiques, issus notamment de la guerre des 6 jours qui a permis à Israël de conquérir de nouveaux territoires. Et ces mouvements politiques-là, eux, brisent le consensus. Ils s'affirment davantage comme étant, premièrement, clairement pas démocratiques, ou du moins la démocratie juive telle qu'existe en Israël, ils n'en veulent pas. Ils s'affirment beaucoup plus comme théocratiques, voire même messianiques. Et surtout, ils n'ont pas peur d'affirmer un réel suprémacisme juif, au sens où les expulsions ne doivent pas s'arrêter, il faut reprendre le processus que ce qu'ils prétendent être leurs ancêtres ont fait en 48. Donc il faut aller encore plus loin que ça. C'est ce qui explique en partie pourquoi est-ce que, dans les années 90, connaît en Israël ce qu'on appelle une révolution juridique. J'explique rapidement. On a différents juges qui décident de dire qu'il faut que la Cour suprême ait un rôle bien plus important, c'est-à-dire qu'elle puisse bloquer et casser des lois votées à la Knesset. Pourquoi ? Parce que si à la Knesset un jour, années 90, ils disent que si un jour il y a un gouvernement d'extrême droite qui va à l'encontre des droits des populations juives, les Palestiniens c'est autre chose, des populations juives, il faut que la Cour suprême puisse l'en empêcher. Et donc on fait voter cette révolution juridique qui permet à la Cour suprême de casser des lois si elle estime que les lois votées à la Knesset sont contraires à l'état d'esprit d'Israël et à la déclaration d'indépendance. Bien. Le gouvernement israélien qui se met en place le 1er janvier dernier de Netanyahou est l'un des gouvernements les plus à l'extrême droite du temps du pays, ça on le sait déjà. Et c'est un gouvernement qui, dans une longue suite de gouvernement Netanyahou. Netanyahou a gouverné Israël depuis 2009 quasiment sans être contesté, d'accord. Donc c'est un long marathon qu'il a enclenché. Netanyahou donc et ses alliés en veulent beaucoup à la Cour suprême. Pourquoi ? Merci. Pour principalement deux raisons. La première, je l'ai dit, c'est que leurs alliés religieux à Netanyahou sont opposés clairement à l'idée qu'Israël ne puisse pas un jour devenir un État théocratique. Eux, ils voudraient que l'Israël soit davantage un État religieux et théocratique. Et la Cour suprême, dans tous les cas, n'acceptera pas ça. Donc premièrement, la Cour suprême, ils estiment qu'elle va s'opposer à la volonté du peuple israélien. Il y a l'idée que si les Israéliens votent pour un gouvernement d'extrême droite, eh bien ce gouvernement doit pouvoir mettre en place les lois qu'il veut. Il n'y a aucune institution qui ne peut s'y opposer. Le deuxième argument, qui peut peut-être faire sourire, mais pourtant il est réel, c'est que pour cette extrême droite-là, la Cour suprême va empêcher ou va limiter la colonisation des terres palestiniennes. Je m'explique. Évidemment, nous on sait à quel point la Cour suprême n'a jamais empêché cette colonisation. Sauf que, du point de vue juridique et du point de vue israélien, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. La Cour suprême a toujours autorisé la colonisation, entre guillemets, légale, c'est-à-dire qui a été dynamisée par l'armée israélienne ou les institutions israéliennes. Mais si vous, avec vos copains, j'espère pas ici évidemment, mais imaginons, vous allez sur une colline palestinienne, vous vous installez sans aucune autorisation de l'armée ou de l'État, eh bien la Cour suprême, dans certains cas, peut vous dire « Non, non, vous sortez de là, ce n'est pas légal ». Ça nous paraît complètement absurde, pourtant, c'est une des raisons pour lesquelles ce gouvernement d'extrême droite, et notamment ceux qui sont au gouvernement avec Netanyahou, estiment que la Cour suprême ne doit pas pouvoir empêcher un quelconque volonté de jeunes israéliens pardon, de s'installer sur des terres et de les coloniser. Donc la Cour suprême est ciblée, et on a dans ce gouvernement, depuis le 1er janvier, un programme qui est très clair. Au point où on peut se demander pourquoi la Cour suprême mobilise autant les gens. Je vais revenir. On a évidemment un programme qui est des attaques frontales contre les droits des femmes en Israël, qu'elles soient juives ou non, contre les populations LGBT, évidemment les Palestiniens d'Israël, hein, ceux qui ne sont pas juifs en Israël, qui sont principalement visés également par toute une liste d'attaques, j'y reviendrai après si on attend dans le cadre du débat. Et donc on a au final une attaque contre le système judiciaire. Cette attaque contre le système judiciaire et la Cour suprême, c'est celle qui va mobiliser, galvaniser les Israéliens dans un cadre de lutte, au point où à l'heure qu'il est, on ne sait pas comment ça va finir. Je fais très simple sur comment ça peut potentiellement finir. Il y a actuellement la loi qui a été votée à la Knesset, d'accord ? Netanyahou en gros dit, on a été élu, on fait ce qu'on veut, on est majoritaire à la Knesset. La population a fait ce qu'on appelle une pétition qu'elle a déposée à la Cour suprême. Il y a deux cas de figure. Soit la Cour suprême dit, cette pétition est recevable, la loi qu'a votée Netanyahou ne peut pas être acceptée. Dans ce cas, Netanyahou aura deux choix, soit il accepte, et on arrête tout, et on revient au début, on renégocie des lois. Soit il dit, je m'en fiche, j'ai été élu. Dans ce cas-là, crise politique. Soit la Cour suprême dit, cette pétition n'est pas recevable, la loi a été votée, je ne sais pas comment ça va finir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a en Israël aujourd'hui des forces qui sont prêtes à l'affrontement comme on l'a jamais vu. L'extrême droite est en train de tout faire pour monter ce qu'ils appellent une espèce de milice, de garde nationale, qui est en fait un moyen de prendre tous les pires groupes, disons, fascistes, d'hooligans, d'extrême droite, dans un cadre légal d'une unité qui serait armée et qui aurait le droit d'intervenir dans le cadre de manifestations contre les Palestiniens. Et du côté évidemment de l'opposition à Netanyahou, on a une partie de réservistes, de militaires qui eux aussi estiment que c'en est trop et il faut intervenir. Bon, évidemment, la droitisation d'Israël, elle date depuis longtemps. J'y reviens dans mon livre que Hercilia a mentionné. Je ne reviendrai pas là, je n'ai pas le temps malheureusement. Peut-être dans le débat s'il y a des questions dessus. Donc voir une société israélienne debout et faire face à Netanyahou et à un projet que j'appelle moi fasciste ou fascisant, c'est évidemment porteur d'espoir. Ça, on ne va pas le nier. Le problème là-dedans, c'est jusqu'où est-ce que ça va. C'est-à-dire que si on estime que Israël, avant Netanyahou, tout allait bien et Netanyahou est en train de tout foutre en l'air, là, il y a un problème. Israël, en fait, ça demeure, quoi qu'il arrive, et Rima l'a bien expliqué, un État profondément colonial. Et ce mouvement social s'intègre dans le cadre d'un État colonial. Dès lors, le problème, c'est que ce mouvement social ne prend pas en compte ni la question de l'occupation des Palestiniens, ni la colonisation, ni même les droits des Palestiniens en Israël, qui passent totalement au second plan. Or, moi, j'affirme dans mon livre et dans cette conférence-là, dans le cadre du débat après encore, c'est que les opposants à Netanyahou en Israël n'ont, selon moi, aucune chance de pérenniser leur place au pouvoir sans un accord réel et sincère avec les Palestiniens d'Israël dans le cadre d'une nouvelle refonte politique. Sauf que cette refonte-là, elle impose d'aller droit dans le cœur du problème colonial. C'est-à-dire que l'opposition actuellement, si vous les écoutez, et même dans les débats où Rima et moi, d'ailleurs, on a pu parfois participer dans les médias, il y a ce que j'appelle un profond déni colonial. Il y a le mythe que Israël, en fait, ben, à la base, c'est un État juif et démocratique, tout fonctionnait bien, et puis petit à petit, c'est parti en vrille. Non. La réalité, c'est que Israël n'a jamais été une réelle démocratie pour tous. C'est une démocratie d'abord pour ses citoyens juifs. Pour les citoyens qui ne sont pas juifs, c'est un État juif avant tout. D'accord ? Ce n'est pas non plus un État qui est simplement en prise avec un petit conflit national, territorial, dont on pourra gérer les choses plus tard. Non, absolument pas. Israël est une démocratie coloniale dont l'extrême droite au pouvoir actuellement est la suite logique de son histoire. C'est la version la plus extrême du colonialisme israélien. Et à partir de là, l'attaque contre la Cour suprême, ce n'est absolument pas le but du gouvernement. C'est un moyen pour ensuite mettre en place un projet beaucoup plus global, que moi j'appelle le projet d'apartheid sur l'ensemble de la Palestine, qui est peut-être d'ailleurs déjà présent, on y reviendra avec Anne tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, c'est également un moyen de terminer un problème central qu'a aujourd'hui l'extrême droite en Israël et Netanyahou. C'est la question démographique. Israël et le professionnisme pensaient pouvoir mettre un terme à la question palestinienne en 1948. Ils pensaient que c'était fini, terminé. Aujourd'hui, on est en 2023, entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, vous avez 50-50. Autant de juifs que d'arabes. La différence, c'est que la gauche coloniale en Israël continue de penser que on va pouvoir remettre en place un État juif et démocratique, donner quelques droits aux Palestiniens, et puis ça ira bien, on pourra rester vraiment majoritaire et tout le monde l'acceptera. La droite et l'extrême droite, Netanyahu notamment, savent bien que c'est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière, ça a été trop colonisé, les terres ont été colonisées, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc qu'est-ce que fait la droite et l'extrême droite? Elle prend les devants et elle dit non, vu qu'il n'y a pas de retour en arrière, vu qu'on ne va pas peut-être expulser tout le monde, on va installer un État qui va nous garantir que même si un jour on est minoritaire, on reste les maîtres du territoire. 2018, loi d'État-nation du peuple juif votée par Netanyahu et son gouvernement, les articles mentionnent clairement que même en cas, je vous invite à les lire d'ailleurs, hein, même en cas de contestation démographique, le droit à l'autodétermination n'appartient qu'au seul peuple juif. Ça veut dire qu'on a clairement ici une gauche qui manifeste, ou un centre-gauche qui manifeste beaucoup d'illusions, malheureusement. On les soutient, en tout cas moi théoriquement, par rapport à ce qui se passe, mais beaucoup d'illusions malheureusement. Et en face, un grand Netanyahou qui va droit devant dans son projet, que j'appelle moi, évidemment, colonial, suprémaciste et apartheid. Le problème central, il est double, et je finirai sur ça. C'est que dès lors qu'il n'y a pas de projet d'égalité pour tous, puisque le sionisme n'a jamais pensé d'égalité pour tous au Proche-Orient, dès lors que la colonisation est en échec, puisque les Palestiniens sont toujours là, et contestent démographiquement à Jérusalem, comme en Jordanie, comme partout, la majorité juive entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, il n'y a plus qu'un seul moyen voulu pour Israël de se maintenir tel quel, c'est l'apartheid. Et c'est pour ça que Anne va en parler. Merci.
Merci beaucoup Thomas. Alors donc effectivement Anne, Thomas a parlé d'apartheid. Ce terme a été d'ailleurs débattu pour la première fois cette année à l'Assemblée. C'est aussi un fait notable de cette année. Qu'as-tu pensé de ce débat et en quoi peut-on parler d'un système d'apartheid?
Eh bien bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir invités. Merci de tout ce travail que nous faisons depuis des mois. Toi, nous, le mouvement de solidarité, et particulièrement sur ce gros travail que nous avons fait autour du dépôt d'une résolution pour l'Assemblée nationale pour savoir si la représentation nationale en France allait reconnaître qu'Israël commet le crime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Thomas a commencé à en parler. Tout à l'heure, Ercilia, tu disais qu'il faut poser un bon diagnostic. Et effectivement, si on ne met pas les bons mots sur les situations, on ne peut pas parvenir à une solution qui soit juste. Et Thomas parlait d'égalité des droits. Nous, notre objectif, c'est la fin de l'apartheid et l'égalité des droits. Rima disait aussi que la Nakba était une conséquence du projet colonial, sioniste. L'apartheid est l'outil de ce projet colonial. Et on va voir comment, en quoi c'est un outil du projet colonial sioniste. Mais d'abord, il faut se poser la question de ce qu'est l'apartheid. Dans, notre conscient collectif, l'apartheid nous renvoie à la situation politique en Afrique du Sud jusque dans les années 90. C'était effectivement un régime d'apartheid, mais la définition d'un régime d'apartheid ne se fait pas par analogie avec la situation politique en Afrique du Sud jusque dans les années 90. Il y a tout un corpus dans le droit international qui permet de définir de manière extrêmement claire ce qu'est un régime d'apartheid. Donc il y a la Convention pour l'élimination des discriminations raciales de 1965, il y a la Convention pour l'élimination de l'apartheid de 1975, et il y a le statut de Rome de 1998 qui définit l'apartheid comme un crime contre l'humanité. Donc vous pourrez trouver plus d'explications dans des petits documents qu'on pourra vous donner, mais si on veut aller à la définition la plus claire possible de l'apartheid, en regroupant ces trois textes, l'apartheid, ce sont les actes inhumains commis en vue d'instituer et d'entretenir la domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial d'êtres humains, d'instituer un régime institutionnel d'oppression et de domination. Et tout ça dans l'intention de maintenir le régime. Donc je vais balayer la situation et la politique israélienne, et vous verrez qu'à la fin, vous vous direz, eh bien, Israël coche toutes les cases. Donc, les Palestiniens qualifient ce qu'ils vivent d'apartheid depuis des décennies. Il y a des rapports qui se multiplient, qui, de plus en plus, là aussi, depuis fort longtemps, il y a eu le tribunal Russell. Plus récemment, il y a eu le rapport de Virginia Taylor et de Richard Falk. Et puis, il y a eu un rapport extrêmement important que peu de gens connaissent, qui est un rapport des ONG de défense des droits humains au Comité pour l'élimination des discriminations raciales, qui reprend point par point toutes les définitions du crime d'apartheid et qui démontre que Israël a mis en place à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble un régime d'apartheid. Et puis depuis, il y a eu des rapports d'ONG israéliennes comme B'Tselem ou Yesh Din, et des rapports de grosses ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International. Mais je reviens aussi sur, pour moi, ce qui est le plus important, ce sont les rapports des ONG palestiniennes, et particulièrement le plus récent, qui est celui de Al-Haq, qui définit l'apartheid israélien comme un outil du colonialisme de peuplement sioniste. Donc si on prend tous ces rapports, tout démontre qu'Israël a mis en place à l'encontre du peuple palestinien ce régime dans l'intention de priver le peuple palestinien de ses droits nationaux et en premier du droit à l'autodétermination. Rima en a parlé tout à l'heure. Le premier des droits est le droit à l'autodétermination. Et Thomas a rappelé aussi que dans la loi de l'État-nation du peuple juif de 2018, ce droit est nié aux Palestiniens. Et puis, le troisième élément très important, l'objectif est bien de remplacer le peuple palestinien sur ses terres. Je ne reviendrai pas sur la Nakba, ça ne s'envole pas tout, vu que Rima en a parlé très longuement. Donc, ça je l'ai déjà dit, c'est bon. Donc, revenons sur ce qu'a fait Israël. Dès 1948, Israël a mis en place tout un système à la fois législatif et administratif. Il y a une foultitude de lois, une foultitude de décrets, dont l'objectif est de légaliser le vol des terres. Rima a parlé tout à l'heure de la loi des absents, d'institutionnaliser les discriminations entre juifs et non-juifs. Et alors ça, on le retrouve tout au long de la législation israélienne, et c'est valable sur tout le territoire entre la Méditerranée et le Jourdain, et au-delà, et d'enraciner la suprématie des uns sur les autres, et bien entendu d'enraciner la suprématie des juifs sur les non-juifs. Thomas l'a dit, la loi sur l'État-nation ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'au seul peuple juif, et la loi sur l'État-nation institue le colonialisme de peuplement comme une valeur nationale. Donc avec ça, on a le cadre. Dans la définition, je vous parlais des actes inhumains, puisque l'apartheid, ce sont les actes inhumains commis dans le cadre de ce régime d'oppression et de domination systématique. Donc, ils se regroupent, ils sont définis, ces actes inhumains, dans la Convention de l'apartheid de 1973. Ils regroupent le déni des droits fondamentaux, le déni des droits civiques, la division de la population sur des critères raciaux et les persécutions de celles et ceux qui s'opposent à l'apartheid. Si vous connaissez un peu la situation en Israël-Palestine, vous pouvez voir que à travers les quatre catégories d'actes inhumains, on retrouve absolument toute la politique israélienne à l'égard du peuple palestinien. Une dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'aspect, une spécificité de l'apartheid israélien. C'est ce qui a été défini et démontré tout au long des rapports qui ont été publiés, et particulièrement le rapport Fortillet. C'est ce qu'on appelle d'une manière un petit peu... qu'on appelle la fragmentation du peuple palestinien. C'est-à-dire qu'au fil des ans, à partir de 1948, Israël a imposé aux Palestiniens des statuts juridiques, politiques et géographiques différents, selon l'endroit où ils se trouvent et selon ce à quoi ils ont été soumis. C'est ainsi qu'on trouve des Palestiniens comme Rima, qui sont en exil ou dans les camps de réfugiés ou dans les camps de réfugiés palestiniens, et qui sont là par la volonté d'Israël, qui les a chassés de leur terre. On retrouve des Palestiniens qui sont citoyens d'Israël, ceux et les descendants de ceux qui ne sont pas partis au moment de la Nakba. Et on retrouve des Palestiniens qui sont dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, c'est-à-dire Cisjordanie et Gaza, et Jérusalem-Est, avec un régime particulier pour les Palestiniens de Jérusalem-Est qui bénéficient de mesures discriminatoires pour le droit de résidence. Les Palestiniens d'Israël sont soumis à des lois discriminatoires. On cesse de nous dire « mais il n'y a pas d'apartheid en Israël puisque les Palestiniens d'Israël ont le droit de vote ». On pourra revenir là-dessus pendant le débat si vous le souhaitez, mais il y a de très fortes discriminations et également en matière de citoyenneté pour les citoyens palestiniens d'Israël. Et puis, les Palestiniens qui vivent en territoire palestinien occupé, qui sont soumis à un régime militaire drastique, arbitraire, aux punitions collectives et ainsi de suite. Donc on a cette fragmentation, et ce qui permet est la stratégie d'Israël qui permet de masquer la continuité de sa politique. Thomas et Rima en ont bien parlé, c'est une politique coloniale qui vivent à déposséder les Palestiniens de la totalité de leurs terres et de leurs biens. En fragmentant le peuple palestinien, Israël donne l'impression qu'il y a des politiques différentes. Sauf que tous les Palestiniens, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils se trouvent entre Méditerranée et Jourdain, sont victimes de cette même politique de dépossession et d'oppression et de domination raciale. Qui est la politique ? Il faut qu'on comprenne que ça n'est pas, l'apartheid n'est pas l'objectif d'Israël. Discriminer les Palestiniens, ça n'est pas l'objectif d'Israël. L'objectif, c'est d'arriver à la disparition totale des Palestiniens de la terre, de leur terre natale. Et pour ça, il y a un certain nombre d'outils, dont l'apartheid et dont les discriminations à l'encontre des Palestiniens, qui sont un des aspects de la politique d'apartheid d'Israël.
Voilà, c'était donc la première partie. Nous écouterons probablement la deuxième partie dans une émission ultérieurement. C'était très très intéressant, vraiment de très très bonnes interventions, et tout ça dans le cadre des amphis, donc de la France insoumise, où les militants de la France insoumise ont probablement été très intéressés et ont découvert énormément de choses de ce qui se passe là-bas en Palestine. Alors nous allons maintenant faire une pause musicale au cours de laquelle nous allons écouter un hommage à la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, qui avait été abattue à Jenin par des soldats israéliens. C'était le 11 mai 2022. C'est aussi ce que nous allons écouter, c'est aussi un hommage à la lutte des Palestiniens et Palestiniennes pour la liberté et la justice. Cet hommage est interprété par le Chœur des filles de Jérusalem et par le Conservatoire national de musique Édouard Saïd de l'Université de Bir Zeit à Gaza. Les paroles sont de Fida Fayez Ktob et la musique est de Souheil Khoury. Nous retrouvons tout de suite après. We'll be right back. Voilà, magnifique chanson, vraiment magnifique, extrêmement émouvante. Alors, pour terminer l'émission, je vais faire un court bilan des actions d'appel au boycott qui sont en cours et notamment de celles qui ont apporté récemment une victoire. Alors, je commence par la campagne contre l'équipementier Puma. Cette campagne se poursuit. Le contrat de Puma avec l'Association israélienne de football, auquel nous demandons à Puma de renoncer, hein, ce contrat se termine en juin 2024. Alors, notre objectif est que Puma ne renouvelle pas son contrat au terme de celui-ci. Pour cela, les actions d'appel au boycott se poursuivent, bien sûr, c'est-à-dire n'achetez pas Puma et demandez à votre entourage de ne pas acheter du matériel Puma. Si vous avez des contacts ou des liens avec l'OM, eh bien demandez, vous savez que l'OM est sponsorisé par Puma, eh bien essayez de demander à l'OM qu'elle mette la pression sur Puma pour qu'il cesse de soutenir le football israélien et qu'il ne renouvelle pas son contrat au mois de juin 2024, hein, puisque vous savez qu'en soutenant le football israélien, en sponsorisant l'Association israélienne de football, eh bien, il fournit du matériel et des équipements aux clubs qui sont dans les colonies, les colonies illégales. Donc quelque part, Puma, on peut dire, est complice de la colonisation et de l'apartheid en Israël. Alors vous savez en plus que Puma prétend agir en faveur de la planète et du développement durable. Alors si c'était pas si dramatique, cela nous ferait sourire, hein, quand on sait que Puma va signer un accord d'exclusivité avec la Formule 1 qui, comme chacun le sait, hein, ne nuit pas du tout à l'environnement, hein, les compétitions de Formule 1, aucune pollution, voilà. Donc Puma va signer un accord, hein, pour fournir des équipements à la Formule 1. Mais d'un autre côté, Puma veut quand même essayer de montrer, de faire croire qu'il agit pour la planète. Et pour ça, il a recruté 4 jeunes influenceurs et influenceuses qu'il a appelés les voix de la régénération. Et ces jeunes sont chargés sur les réseaux sociaux de convaincre que Puma travaille au développement durable. Alors la campagne BDS a contacté une de ces influenceuses à plusieurs reprises et nous avons appris récemment que cette influenceuse avait quitté ce groupe des voix de la régénération. Alors elle n'a pas dit pourquoi, hein, mais on ne peut s'empêcher de penser que les arguments de la campagne BDS ne l'ont probablement pas laissée indifférente. Donc maintenant, eh bien, nous allons essayer de faire le même travail avec les 3 autres influenceurs de ce groupe des voix de la régénération. Une autre très belle victoire qui s'est déroulée là très récemment, c'est celle avec le festival Pop Culture de Berlin. Donc le festival Pop Culture de Berlin est, comme son nom l'indique, un festival de musique pop qui se déroule à Berlin chaque année à la fin du mois d'août. Et ce festival acceptait depuis plusieurs années une aide financière de l'ambassade israélienne de Berlin. Donc depuis plusieurs années, la campagne BDS demandait aux organisateurs de renoncer à cette aide et comme le festival n'y renonçait pas, la campagne BDS demandait aux artistes invités à ce festival de ne pas y aller. Et depuis plusieurs années, un certain nombre d'artistes, en effet, refusaient l'invitation et n'y allaient pas. Donc c'était déjà des victoires, hein, pour la campagne BDS, mais cette année c'est encore mieux. Sous la pression d'artistes et de membres de la campagne BDS, le festival a renoncé au financement israélien. Alors nous remercions nous les artistes qui ont aidé à cette belle victoire et maintenant l'objectif est que le festival Pop Culture maintienne sa position l'année prochaine et pour toujours, qu'il n'accepte plus de financement de l'ambassade d'Israël à Berlin. La campagne contre Carrefour se poursuit, puisque Carrefour a signé, comme vous le savez, en 2022 des accords de franchise en Israël avec 2 sociétés israéliennes. Donc des produits Carrefour sont vendus maintenant dans des magasins situés dans les colonies. Donc nous appelons au boycott de Carrefour. Voilà, n'allez pas à Carrefour, n'achetez pas de produits Carrefour. Et nous demandons à tout le monde, si vous êtes dans l'obligation d'aller à Carrefour, de éventuellement mettre un courrier. Vous savez, souvent à l'entrée des magasins, il y a une boîte à idées, on peut mettre un petit papier en disant « Attention, je refuse que Carrefour aille vendre ses produits dans les colonies israéliennes, c'est illégal. » Voilà, c'est un truc tout simple, tout bête. Pas la peine de faire un long courrier, un petit mot comme ça. Ou même, vous pouvez mettre des commentaires sur les réseaux sociaux de Carrefour. Hein. Carrefour est sur Facebook, Carrefour est sur Twitter, sur Instagram, vous mettez des petits commentaires, BDS Carrefour, jusqu'à ce que Carrefour se retire retire ses produits des magasins dans les colonies, etc. Bon, voilà, il y a moyen de participer à cette campagne. Voilà, eh bien, écoutez, je termine cette émission en vous rappelant quand même le grand événement que nous organisons dans le cadre de notre collectif Palestine en résistance. Ce grand événement, ce sera un colloque qui va se tenir le 14 octobre à Marseille, de 14h à 18h, au centre Le Mistral, qui est situé boulevard Flammarion. Le thème du colloque, c'est 30 ans après Oslo, où en sommes-nous ? Nous aurons dans ce colloque 5 intervenants et intervenantes de grande qualité. Nous vous les présenterons dans une prochaine émission, mais d'ores et déjà, notez cette date du 14 octobre dans votre agenda. Voilà, merci beaucoup à Sidi pour l'organisation et le montage de cette émission. Merci à tous de votre écoute attentive. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain pour Une heure en Palestine. Bintish Shalabi.